enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
La dernière fois, j'avais parlé de ce thème, attaque ton problème. Et comme arrière-plan, il y avait David et Goliath. Une histoire très très connue, n'est-ce pas ? On se rappelle David qui, au bord du ruisseau, va chercher 5 pierres. 5 pierres bien lisses. 5 pierres qu'il a su apprécier avec sa main de connaisseur. À l'époque, on pouvait avoir une précision dans le tir à la fronde qui allait aux cheveux près. Il y avait les troupes d'élite d'Israël qui étaient exercées à pouvoir tirer à la fronde aux cheveux près. Et je pense que David n'était pas loin de cette troupe d'élite-là. Il a choisi 5 pierres. Douces, lisses, d'une bonne densité, d'un bon poids. Et puis il engage une première. Et puis quand le géant se lève et se moque de lui et commence à le maudire, il commence à courir et il lui dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel et aujourd'hui même je te donnerai en pâture aux oiseaux du ciel. Et fou, la pierre, une petite pierre, est partie et atteint le géant en plein front. Ça l'a ébranlé, ça l'a assommé, il est tombé, mais David s'est dit, il vaut mieux assurer le coup. Il a sauté sur lui, a tiré l'épée du fourreau, et l'a tranché la tête. 5 pierres. Pourquoi 5 pierres? Il avait la pierre, je rappelle cette simple notion, la pierre du passé. David n'était pas venu comme ça en néophyte. Hello, bonjour, je suis berger, je vais aller me taper un petit géant. Non. David avait déjà affronté d'autres géants dans sa vie de berger. Il avait déjà affronté l'ours qui avait volé une de ses brebis. Il y avait encore des morceaux de brebis qui étaient dans les dents de l'ours. Eh bien, il lui a sauté dessus, il lui a arraché de la gueule de l'ours la brebis qu'il voulait déchiqueter. Il avait affaire au lion. En fait, il avait été à l'école des batailles. Et vous le savez comme moi, la vie est une bataille. Et nous avons tous, chacun pour sa part, un géant, 2 géants, 3 géants. Et puis il y avait une seconde pierre, c'est la pierre de la prière. Cette prière, voyez-vous, David, à un moment donné, il ne va pas faire une longue prière, mais il va dire à la fin, car la victoire est à l'Éternel. Il invoque l'Éternel pendant la bataille. Et j'aimerais te dire, mon ami, toi aussi, si tu veux voir tes géants tomber devant toi, eh bien commence à utiliser la pierre du passé. Rappelle-toi toutes les bonnes choses que Dieu t'a données. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme on est oublieux face à nos problèmes, comme on est oublié de ce que Dieu a fait hier et avant-hier. Rappelez-vous ce que Dieu a fait hier et utilisez cette prière. Ce Dieu qui m'a aidé hier a dit qu'il serait avec moi tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Ok ? La pierre de la prière. La pierre des priorités. Voyez-vous, David, on a l'impression qu'il ne s'est pas tellement focalisé sur le géant. Il le mentionne 2 fois. Dans tout le texte de 1 Samuel 17, il ne le mentionne que 2 fois. Par contre, à 9 reprises, il va mentionner le nom de l'Éternel. Dans sa pensée, il y avait le Seigneur. Et dans sa pensée, il voyait Dieu beaucoup plus grand que son géant. Et j'aimerais te dire, face à tes géants, à toi, Eh bien, médite sur l'Éternel. Plus tu méditeras sur lui, plus ton géant va plier le genou. Et plus tu médites sur ton géant, plus c'est toi qui seras sur les genoux, écrasé. Quatrième, c'est la prière, c'est la pierre de la passion. Voyez-vous, David a avancé passionnément. Peut-être était-il un peu jeune, c'est vrai. À cet âge-là, on est un peu fougueux. Mais néanmoins, nous sommes appelés à avoir du zèle pour l'Évangile, n'est-ce pas ? Avoir du zèle. Le zèle de ta maison me dévore, est-il marqué ? La passion, c'est pas un petit lapin qui essaie de se protéger face à Goliath. Non. Il ne se présente pas comme un lapin qu'on va canarder. C'est lui qui prend l'initiative et qui court vers le géant, qui attaque le problème. Oui, on est d'accord. Il y a des problèmes que Dieu résout comme ça. On a vu des miracles qui sont passés comme ça. Mais bien souvent, certains miracles n'auront lieu dans nos vies que dans la mesure où nous les affrontons, où nous affrontons les problèmes avec passion. Puis il y avait une dernière pierre. C'est la pierre de la persévérance. Voyez-vous, notre ami Goliath, il avait de la parenté, qui était aussi des géants. Et c'est un peu comme dans les trains, un géant peut en cacher un autre. Et des fois la vie est ainsi faite, on dit jamais 203, n'est-ce pas ? Mais j'ai les géants aussi, comme ça il y a une espèce de série. Et David s'est dit, si mon premier tombe, il faut que j'aie de quoi recharger ma fronde. Autrement dit, il était prêt à persévérer. Et si vous lisez bien la biographie de David, David, pendant un très long moment, va être en bataille avec les Philistins, en bataille avec Saül, le roi, qui a perdu son onction et que Dieu veut remplacer par David. David avait ses géants, et nous avons les nôtres. Ça peut être une pensée d'angoisse, ça peut être un souvenir d'abus divers, ça peut être des factures qui s'accumulent pour un homme d'affaires, ça peut être un passé insupportable, ça peut être un enfant qui vire au vinaigre, ça peut être une santé fragilisée, un accident subi, ça peut être une femme qui tout à coup se retrouve seule avec ses enfants, le mari est décédé ou il est parti, ou inversement, un homme qui est seul. Ça peut être la recherche d'un travail infructueux, à l'âge, au mauvais âge. On n'a plus l'âge de chercher un boulot. On vous dit, monsieur, vous avez 50 combien ? Eh bien, c'est trop tard. Quel est votre géant ce soir ? Ça peut être une dépression, peut-être. Le sentiment d'échouer tout le temps, d'avoir une malédiction sur sa vie. Ça peut être tellement de choses à la fois. Nous avons tous nos géants, mais nous pouvons tous les affronter au nom de l'Éternel. Amen. Au nom de l'Éternel. Mais ce soir, je voudrais revenir à David sous un autre angle. Voyez-vous, il y a des géants que David a réussi à ratatiner. Et puis il y a d'autres géants qui l'ont ratatiné. Le texte de Proverbe 24, verset 16, dit la chose suivante. Il dit, car le juste tombe 7 fois et il se relève. Je répète ça. Le verset d'avant dit la chose en substance, la chose suivante, ne tends pas des pièges à l'homme juste, car le juste tombe 7 fois et il se relève. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Voyez-vous, David est un homme paradoxal. Il savait mener les armées, il savait mener les guerres, il a fait d'une bande de vauriens une troupe d'élite. Mais lui-même, des fois, avait du mal à se diriger lui-même. Il avait un cœur de chamallow. Chaque fois qu'il voyait une belle jupe, il était foutu. Alors on rigole un petit peu, mais les conséquences ont été des fois dramatiques. Et je voudrais maintenant voir David quelques années plus tard avec vous. Il est devenu roi, il est sur le trône. Son trône, son autorité est bien établie. bien assise. Il n'a plus rien à craindre, vraiment. Les choses tournent bien pour lui. Il n'a plus à fuir. Il n'a plus à vivre en rase campagne. Il n'est plus à la merci d'un roi déchu. Il est maintenant lui le roi. Il a tout pouvoir. Il est craint et il est respecté. Mais voilà qu'un géant arrive. Lisons ensemble dans 2 Samuel, chapitre 11, les versets 1 à 3. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et je voudrais pouvoir effacer le verset qui vient. Mais il est là, déclarant avec une franchise remarquable la réalité. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Et s'ensuit une dramatique histoire qui va finir par lui coûter très très cher. Non pas tant en termes d'argent, mais en termes de beaucoup d'autres choses. Entre autres la crédibilité. Entre autres son intégrité. Je vais y revenir après. Mais je voudrais avec vous voir rapidement un de ces géants qu'on ne soupçonne pas. Il y a comme ça des géants qu'on identifie facilement, qu'on se rend compte. Et puis il y a des géants dans nos vies, on n'a pas envie de les voir comme tels. Et finalement, si on ne prend pas garde, ils peuvent nous surprendre à l'heure à laquelle on ne s'y attend pas. Je vais voir avec vous les quelques causes qui ont provoqué sa chute et les causes qui ont aussi ramené son rétablissement et sa réhabilitation. La première cause qui a provoqué sa chute, la chute de David, car le juste tombe aussi cette fois, et j'aime bien ce rapprochement, le juste tombe. J'appelle ça le juste tombe. Des fois on se dit le juste est parfait. Eh ben non, le juste n'est pas parfait. On peut être juste et encore être vachement imparfait. Et on a encore besoin d'un travail profond de l'Esprit Saint en nous qui nous mène à la perfection. Et l'Esprit Saint est un esprit de sanctification et de sainteté qui inlassablement travaille à nous jour après jour pour que nous devenions saints. Il travaille notre perfection. Amen. Mais la première chose qui a amené la chute de David, je crois, c'est le fait justement qu'à ce moment-là de l'année, apparemment il y a une période où on partait en guerre. Comme on fait des foires annuelles, eux ils partaient en guerre annuelle. Un peu surprenant, n'est-ce pas? Mais il y avait cela. Ce que David fait, il envoie son QG, il envoie son armée, et il est marqué, et tout Israël. Et lui est resté à Jérusalem, entre parenthèses, relativement seul. Un des éléments qui peuvent nous amener à chuter, c'est le fait de nous retrouver dans l'anonymat d'une foule ou d'une situation. C'est monsieur qui part en voyage d'affaires à l'autre bout du monde et qui se retrouve le soir seul dans sa chambre d'hôtel. Dans une ville où personne ne le connaît, où une foule est tellement dense que lui fait partie de la foule anonyme. Il se retrouve tout seul. Je pourrais multiplier les exemples, le temps me manque. Mais l'anonymat de la solitude va mettre en évidence ce qu'il y a au fond de vous. Tant qu'on est entouré de ses amis, de ses collègues de travail, de sa famille, de sa femme, de ses enfants, quelque part on a une réputation à défendre. On veut quand même être aimé. Je n'ai vu personne dans ce monde aimer être détesté. À moins que nous, il y a quelqu'un comme ça qui soit là ce soir, qui lève sa main. Je vais prier pour vous, que Dieu vous aide. Donc on a une réputation à défendre. Mais lorsqu'on est seul au sein d'une foule, seul au fin fond d'un hôtel à l'autre bout de la France, vous savez ce qui se passe? Vous êtes face à vous-même. Et ce qui va tester, c'est votre intégrité. Permettez-moi une rapide définition entre réputation et intégrité. La réputation, c'est ce que les autres pensent de vous. L'intégrité, c'est ce que vous êtes quand personne ne vous voit. C'est votre époux qui est parti. Vos enfants qui ce soir sont eux aussi en week-end et vous vous retrouvez seul à la maison, madame. Et c'est là que se joue le jeu entre vous et vous-même. Combien de femmes n'ont pas cherché ces derniers temps aventure sur Internet? Ce n'est plus l'affaire des hommes seulement, c'est aussi des femmes. Et je pourrais, là encore, multiplier les exemples. C'est à ce moment-là qu'on sort une bouteille de vin blanc pour un peu se donner du moral. Ou que sais-je encore? Où on se laisse aller à des discussions entre copines qui sont franchement pas édifiantes. Là, vous ne touchez plus à votre réputation, vous touchez à votre intégrité. Et David était seul à la maison à Jérusalem. Et David était confronté à lui-même. Et s'il y a une chose qui peut vous pousser à rencontrer le géant qui va attaquer votre intégrité, c'est le fait de vous retrouver dans l'anonymat de la solitude. Deuxième point, une autre raison, c'est l'absence ou le manque de responsabilité ou de prise de responsabilité. Quand je dis ça, c'est le mot responsabilité veut dire répondre de ses actes, rendre des comptes. Tout le monde est parti en campagne de guerre. Il n'y a donc plus personne à qui rendre des comptes, si ce n'est à lui-même et à Dieu. Or Dieu, lui, il est invisible. Il n'est pas là. Et lorsqu'on est seul comme ça, tout à coup, nous surprend le sentiment que finalement personne ne nous voit. Et puisque personne ne nous voit, on peut faire un peu ce qu'on ne peut pas faire quand quelqu'un nous voit. On ne rend pas des comptes. Une troisième raison qui peut pousser à la chute, c'est le sentiment qu'avait David peut-être. Le sentiment, j'invente un mot, d'invulnérabilité. Il se croyait peut-être au-dessus du lot des hommes. Oui, David était fort sur beaucoup de points, mais être fort sur beaucoup de points ne veut pas dire qu'on est fort sur tous les points. David avait sous-estimé sa fragilité émotionnelle. David venait de rencontrer Abigaël, qui venait de devenir veuve parce que Nabal était décédé, une femme belle, est-il dit, une femme intelligente, une femme pleine de sagesse. Et vous le lirez dans les textes de 1 Samuel. David venait de prendre femme auprès en Abigaël. Il est sur le chemin du retour vers Jérusalem. En chemin, ou dans la foulée, il va aussi marier Akinoam. Mais t'en as pas assez avec une? Mais franchement. David avait un problème au niveau des émotions. Avec le sexe opposé. Et le voilà, seul. Seul avec lui-même, avec ce sentiment d'être maintenant assis, je suis roi, mes ennemis sont battus, on va les battre encore de toute façon, Dieu est avec nous. Le pays allait bien économiquement, il remontait la pente, enfin une stabilité, il est au sommet de l'échelle sociale. Et j'aimerais vous dire que le succès est aussi dangereux pour notre vie intérieure que l'échec. Quand on est comme ça, dans une phase de succès, on est aussi en danger. On a un jour demandé à un orateur bien connu, dont je tairai le nom, il n'est pas français, un orateur qui a écrit pas mal de livres, de très très bons livres, un pasteur d'une grande église, un journaliste, un jour de l'interview, il lui dit, « Pasteur, si le diable devait venir vous faire chuter dans votre ministère, à votre avis, par quel moyen arriverait-il » Et lui de répondre du tac au tac, « En tout cas, pas du côté de ma femme et de mon couple. On va bien ensemble, on est vraiment bien. » 3 ans plus tard, cet homme avait chuté avec, je ne sais plus, sa secrétaire ou une paroissienne. Que celui qui est debout prenne garde. Personne ne peut dire « ça, ça ne m'arrivera jamais ». Je vous en supplie de me croire. Peut-être que vous, ce n'est pas forcément ce penchant-là ou cette tendance-là qui vous joue les tours. Peut-être d'autres choses, je vous en supplie, ne dites jamais, ça, ça ne m'arrivera jamais. 4e point, un manque de prière. Voyez-vous, c'est étonnant dans ce texte, David ne prie pas. Or, j'aurais voulu lire que David était sur le toit de la maison et qu'il s'inquiétait pour ses troupes, pour ses hommes en armes, pour le général Joab, et qu'il était monté sur le toit pour aller prier, pour intercéder, pour que la bataille ou la victoire sur les Ammonites. Et non. Alors qu'il priait dans la vallée face à Goliath, au sommet de sa gloire, il a flâné. Et ses flâneries ont mal fini. C'est pas pour rien que Dieu nous demande de prier ainsi. Jésus recommande la prière ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et je vais raccourcir, ne nous laisse pas céder à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Bien-aimés, si Jésus nous enseigne ce verset-là, c'est parce qu'il y a une réalité. Nous sommes aussi la cible de l'ennemi de nos âmes. Et nous sommes invités, nous sommes même poussés, nous sommes encouragés à prier dans le sens, Seigneur, ne me laisse pas céder. Et si tu me laisses passer par la tentation, je veux croire qu'il y a en chaque tentation une porte de sortie par laquelle je pourrais sortir pour m'en tirer. Amen. Celui qui vous parle n'est pas un homme 3 fois saint. C'est un humain qui a traversé déjà pas mal de choses. Et j'ai appris à prendre ce verset-là au sérieux. Ne me laisse pas céder à la tentation, mais délivre-moi de tout mal. Amen. Vous avez l'air bien sérieux ce soir. C'est bien ainsi, hein, j'en suis content. Voyez-vous, et puis David, alors après, il s'est emmené les pinceaux. En voulant cacher son péché, il va aggraver son cas. Il va devenir non seulement un adultère, mais aussi un fichu menteur. Et il va finir par devenir un meurtrier. Oh, certes, c'est pas lui qui va exécuter, mais c'est lui qui donne l'ordre d'exécuter. Avec des conséquences qui, à mon avis, il n'a pas imaginées. D'abord sur lui-même, il est envahi par un sentiment de culpabilité terrible, parce qu'il en parle dans Psaume 32, et puis enfin, il a eu cette rupture avec Dieu. Lui, il connaissait Dieu, il chantait, il jouait de la harpe, et l'esprit mauvais, ce Saül, partait quand lui, il jouait de la harpe. Imaginez un peu ça, juste en jouant de la harpe. L'esprit mauvais qui était sous Saül partait. Il y avait sur sa vie une onction. Et puis, il n'a pas imaginé les conséquences sur sa famille. Sa famille. Allez voir un peu les fils de David. Je pense à Amnon, qui va violer Tamar, sa demi-sœur. Et Amnon, il est dit de lui que David ne l'avait jamais repris. Il est bon non pas de frapper un enfant, mais il est bon de corriger un enfant. Et puis il y avait Absalom. Et Absalom a été une espèce de rebelle, un beau garçon, plus haut d'une tête de tout le monde, une belle chevelure extravagante. Il faisait le charme de ses filles. Absalom. Il va zigouiller Amnon. Et se rebeller contre son père. Et puis il semblerait que, quelque part, ses comportements un peu légers avec le genre féminin aient migré d'une génération à une autre. Parce que si David en avait eu 4 ou 5, Salomon, lui, on ne comptait plus. On se demande, c'est pas un zéro de trop, quelque part. 700 concubines, 300 femmes, enfin, c'est un truc... Moi, j'ai du mal à comprendre. Non, franchement, je sans vouloir dire du mal de Salomon, mais c'est, franchement, c'est beaucoup. Ça a dû coûter en matériel épilatoire, je ne vous dis pas. Ah mais... Enfin bref. Non, moi, je plaisante. Il faut que j'arrête. Quelles conséquences. Et puis je pense à son QG. Quand Joab a reçu la lettre de David, lui demandant de déguiser une exécution, que pensez-vous qu'il a pensé de son boss, de son chef? Et plus tard, quand à un moment donné, il va retrouver accroché entre ciel et terre le fils aîné, Absalom, qui avait voulu faire une sédition contre son père. Il l'a combattu et voilà qu'il le tient entre ses mains. Vous savez ce qu'il fait? Plutôt que de le ménager, il va le tuer. Et que pouvait dire David à Joab? Rien. Parce que ce même David a demandé à Joab de tuer un autre ou de le faire tuer. Et puis il y avait le peuple. Il y avait le peuple. Quand on est devant un peuple, que ce soit un roi ou un pasteur, on a des comptes à rendre. Nous sommes redevables. On peut trahir la confiance des gens. Et David, dans ce cas précis, l'a trahi. Il avait un crédit énorme. Les filles chantaient, Saül a eu ses 1000, mais David, 10 000. Sauf une. Et enfin ses ennemis. Lorsque Nathan viendra le confronter, il va lui dire, Dieu te pardonne. Parce que tu as fait blasphémer tes ennemis, tu seras puni. Quel géant. Pourquoi je parle de ça, entre autres? Dans quelques semaines, ce sera les vacances. Et nous avons chaque année des love stories. Ou plutôt des broken heart stories. Et on retrouve les mêmes situations. On quitte l'église pendant 3 semaines, c'est normal, on va aller au bord de la mer, on va à l'autre bout du monde, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Au contraire, ça forme la jeunesse, n'est-ce pas? Mais c'est là que va être révélé ce qu'il y a au fond de vous. Dans l'anonymat de la foule à l'autre bout du monde, où vous allez être avec vous-même. Et chaque fois, c'est la même histoire. Les choses se répètent. Je voudrais ce soir vous mettre en garde. Non comme un pasteur moralisateur, mais comme quelqu'un qui vous aime profondément. La Bible dit dans Proverbe, l'homme ou la femme, l'âme qui pêche, se nuit à lui-même. C'est comme si vous preniez un pistolet et que vous vous tiriez une balle dans le genou. Ping! Ah, j'ai mal. Oui, vous n'avez pas tiré dedans, c'est tout. Enfin, je veux dire. Alors, je répète, je suis comme vous, qu'un humain. Et c'est par la grâce de Dieu que nous faisons ce que nous faisons. Amen. Maintenant, après les causes de la chute, peut-être les causes du relèvement. Ça vous intéresse? Comment il s'est relevé? Parce qu'il était quand même au fond du trou, hein? Brave David. Eh bien, il y a des causes qui ont amené, qui me permet que David se relève. La première, c'est accepter la lumière. Lisons ensemble dans 2 Samuel 11, verset 27 et 12, verset 1. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Et jusque-là, tout va très bien. Sauf qu'au verset suivant, il est marqué ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Verset suivant, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, David, écoute, j'ai un problème, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis et qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Voilà qu'un voyageur arrive chez lui. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis. Pardon, le voyageur est arrivé chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à sa brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas. Vous voyez un peu l'avarice là, au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Et David se met en colère. Il se met en colère, ne se rendant pas compte que Nathan avait été très sage et intelligent pour aborder, non pas de manière frontale son roi, de manière un peu détournée. Et David dit, au verset 5, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan se tourne vers lui et lui dit, David, cet homme, c'est toi. Et s'il s'appelait Adam, il aurait dit, c'est la faute de Ève. Et Ève aurait dit, c'est la faute de... Il aurait pu dire, c'est la faute de Bathsheba. Ben oui, qu'est-ce qu'elle faisait là ce soir-là? Ben voilà. Moi, je suis allé prier là en haut et puis il était là, voilà. Ben. Et David va dire, j'ai péché. Oui, c'est moi. Je suis responsable. J'assume ma responsabilité. Je dois rendre des comptes. Et à partir de là, il commence à remonter la pente. Il y a des problèmes que vous ne pourrez pas régler avant d'avoir reconnu que c'est vous aussi qui avez été responsable du problème. La faute, ce n'est pas toujours l'autre. On est dans un pays où de plus en plus, au niveau judiciaire, on se judiciarise. On va toujours chercher la faute à quelqu'un d'autre. On se brûle les mains au café qu'on se sert dans la petite cafetière automatique de l'entreprise. Ben, ce n'est pas la faute à moi qui ai bougé le café, c'est la faute à la machine, à l'entrepreneur qui n'a pas acheté la bonne machine. Vous rigolez, mais ça arrive ça maintenant, tout doucement. J'ai péché. C'est un peu comme le fils prodigue qui était parti, n'est-ce pas, et qui finalement va manger des fruits de ses erreurs, va se retrouver auprès des cochons, et à un moment donné, il est dit, il rentra en lui-même, et il dit, voilà ce qu'il dit, je me lèverai, j'irai à mon père, et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, j'ai péché, je suis responsable. Et tant que ça c'est pas fait, vous savez quoi? On pourra faire des kilomètres de prière pour vous, ça ne sert à rien. Parce que nous avons besoin d'assumer nos responsabilités. Il a besoin d'un coup de main de la part de Dieu. Deuxièmement, il reconnaît ses torts. Psaume 32, on pourrait vite sauter au psaume 32 si vous avez encore le temps et la force. Psaume 32, David se réjouit, il rédige ce texte avec une grande fougue. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné, à qui la transgression est remise. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité dans lequel il n'y a pas de fraude. Et il dit une phrase importante, il dit, tant que je me suis tu, Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur, ma force intérieure n'étaient plus que sécheresse. Autrement dit, je faisais une dépression nerveuse. Le péché a un poids. Qu'on le croit ou non, le péché pèse sur les âmes des gens. Le péché provoque de la culpabilité. Et si ce sentiment est encore là en vous, je vous dis, vous fonctionnez normalement. Allô? Il y a même des chrétiens qui sont des fois culpabilisés. Heureusement d'ailleurs. Ça me réjouit encore. Leur esprit, leur conscience fonctionne clairement encore. Tant que je me suis tu. Oui, David a été attristé. La phrase de Nathan, tu es cet homme-là, n'a pas dû le réjouir beaucoup. Ça a provoqué en lui une tristesse, selon Dieu, comme le dit Paul, une tristesse qui rend sage à salut et qui mène à la repentance. Et parfois, nous voulons la bénédiction de Dieu sans le passage de la croix. Nous voulons que Dieu nous donne les petits pains. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais-moi du bien. Très bien, oui, Dieu le fait et Dieu veut le faire. Mais il se plaît aussi à nous ramener d'abord dans une relation saine et juste avec lui. Et tant que ce n'est pas fait, ça, le reste, c'est du vent. David dit, tant que je me suis tu. Mais après il rajoute, il dit, mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. Quelle bonne nouvelle, non? Le poids est enlevé. Je me souviendrai à vie, c'était septembre 2004, 2005. J'avais connu un gros trou dans ma vie chrétienne. Une zone de turbulence aiguë. Un trou d'air. Et j'étais tous les dimanches à l'église. Et tous les dimanches, j'avais la guitare. Mais sorti de là, j'avais une autre vie. Et personne ne savait rien. J'habitais loin de la maison. Seul, dans une ville moyenne. Suffisamment grande pour qu'on ne m'y connaisse pas. Et j'ai mené une double vie. Pendant un temps, ou pas longtemps, quelques mois, mais je descendais la pente. Et je me rappelle encore, un mardi soir, j'avais dit à Dieu, je travaillais à l'Utabac comme instit, et avant de rentrer, j'allais au culte, et j'avais dit devant le culte, j'avais dit, je viens la dernière fois dans cette église, parce que je ne m'imagine pas continuer à mener une double vie. Alors j'ai dit, oh Dieu, si tu me m'aimes encore, si tu as quelque chose à me dire, parle-moi ce soir. Ou alors je m'en mets pour toujours. Et j'étais décidé. C'était blanc, noir, droite, gauche. Pas de moitié mesure. Et le pasteur Jean, il se lève. Il dit, ah, j'ai reçu sous le cœur ce soir la parabole du fils prodigue. Nous allons lire ça ensemble. Évidemment, je la connais, c'est celle-là. Et je me rappelle, je me suis avancé. Il y avait encore Jean Schirmer à l'époque. Et vous avez prié ensemble pour moi. Je vous assure, j'ai tout dit ce que j'ai fait, mais tout, en 30 secondes. J'ai dit ça, et puis ils étaient un peu surpris. J'étais jeune croyant encore. Ils ont prié pour moi, et ce soir-là, bien-aimé, un poids est parti. C'est comme si j'avais un sac à dos rempli de gros cailloux, et que tout à coup, tout était tombé. J'avais une joie, mais j'aurais pu danser dans l'église, j'étais fou de joie, Ah, rien là, je me sentais léger, plus que tournesol, je me sentais léger, j'étais content, tellement content. J'ai du mal à me taire, j'étais content, alléluia Seigneur. Et cette joie du pardon m'a donné la force quand les collègues m'ont rallumé, m'ont remis en selle, enfin voulu mettre en selle. J'ai dit, c'est fini, c'est terminé. Ouais, arrête ça, on te reverra. J'ai dit, vous ne me verrez plus, c'est terminé. Parce que la joie que j'ai là-dedans, la joie du pardon, elle est beaucoup plus grande que tous les plaisirs du monde réunis. Amen. J'avouerai mes transgressions. Troisièmement, il est marqué qu'il s'est relevé dans 2 Samuel 12, verset 20. Lorsque David, à un moment donné, va avoir la sanction, Dieu va sanctionner, va dire, écoute, Dieu te pardonnera, mais l'enfant qui est né de Bathsheba et de toi va mourir. Et pendant 7 jours, il va jeûner et prier. espérant que Dieu va encore infléchir sa position. Et pourtant, l'enfant meurt. Et au verset 20, il est dit, « Alors David se leva de terre. » Alors le fils prodigue qui était près de ses cochons et qui faisait paître ses cochons à un moment donné, étant rentré en lui-même, il va dire, « Je me lèverai et j'irai vers la maison de mon père et je lui dirai, j'ai péché. » Il ne l'a pas seulement dit, à un moment donné, il s'est levé et il y est allé. David s'est levé. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Il n'est pas dit que Dieu le relève, il est dit qu'il se relève. J'aimerais te dire ce soir en face de toi, dans l'esprit, il y a un papa spirituel, il y a un père éternel qui t'attend les bras ouverts. Faut-il que tu te lèves et que tu t'approches de lui. Et enfin, quatrièmement, David a accepté les conséquences de son erreur, la mort de son fils. Comme a dû accepter le fils prodigue, le fait que maintenant, même s'il avait été réintroduit à la maison chez son père, cependant le patrimoine qu'il avait gâché, il l'avait gâché. Et le père va rassurer le fils aîné qui dit, mais enfin finalement, il a tout gâché, il revient, tu lui fais la fiesta, c'est quoi ces histoires? Et le père lui dit, mais il le rassure, il lui dit, attends, non, on soit clair, ce qui est à moi est à toi. Il n'a pas dit, ce qui est à moi est à toi et à ton fils, à ton frère cadet. Il a dit, ce qui est à moi est à toi. Autrement dit, parce que tu as été fidèle, ce que nous avons travaillé ensemble, ce que nous avons obtenu ensemble comme fruit de notre travail, va être à toi. L'autre frère, par contre, était mort, il est revenu à la vie. Alors réjouis-toi. Par contre, ce qu'il va devoir acquérir en patrimoine, ce sera à la sueur de son front. Ce n'est pas un héritage. Vous comprenez? Après, David a aussi reconnu l'amour de Dieu, parce que Dieu a tenu ses promesses. Dieu lui avait dit, l'Éternel te pardonne, mais ton fils mourra. Le fils était mort, donc il savait que l'Éternel lui avait pardonné. Enfin, il a reconnu que la vie continuait. La vie continue. Je veux te dire, mon ami, as-tu chuté? Quand tu es revenu à Dieu, quand tu as été pardonné, la vie continue. Il va aller auprès de Bathsheba, ils vont être ensemble, et va naître Salomon. Je vais terminer en disant que finalement David a pris des grosses leçons. Et il va enseigner à partir de ce qu'il a appris à la dure. Par contre, ça a consolé des millions et des millions de croyants dans tous les siècles passés, présents et à venir. Au psaume 51, voilà ce qu'il dit. On pourrait terminer par là ce soir. Psaume 51. J'ai déjà beaucoup parlé là. Vous me suivez encore? Le professeur Jean-Marie m'a déjà regardé avec toutes ses lunettes. Et il s'est dit, Claude, là, t'as dépassé les 30 minutes. C'est pas bon là. Hein? Tu as raison, Jean-Marie. Le psaume 51, il s'introduit comme ça, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ce psaume, il est magnifique. Il va dire, oh Dieu, aie pitié de moi. C'est une grande prière de demande de pardon. Et puis il dit au verset 5, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Oh, doucement. Et Bathsheba, et Uri, et la famille d'Uri, et... Voyez-vous, le péché, ultimement, c'est un soufflet dans la face de Dieu. Le premier que vous blessez quand vous péchez, c'est Dieu lui-même. Deuxièmement, au verset 10, il fait une prière qui est absolument remarquable. Il dit, verset 12, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il ne dit même pas, Seigneur, réforme mon cœur. Il dit, non, crée en moi un cœur pur, un acte créateur. Nos cœurs sont méchants et mauvais. Mais franchement, ils sont méchants et mauvais. Hein? J'ai deux petites filles, mais franchement, mais elles sont mimi, elles sont choux, elles sont... Et je me dis, il y en a un qui les avorte. Je veux dire, c'est un... Je comprends qu'on puisse en arriver à des moments de désespoir, mais quand même, il faut y aller, là, il faut y aller. Enfin bref, je n'ai pas le temps de parler de plus. C'est... Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Et puis à la fin, il dira la chose suivante, au verset 15. Il dit, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Autrement dit, il va utiliser le déficit pour en faire un capital. Il va dire à d'autres, « Eh, ne fais pas ce que j'ai fait. » Oui, j'ai fait. Mais ce n'est pas la peine de m'imiter parce que tu te tires une balle dans le pied. Je conclue. David, un personnage paradoxal, comme nous sans doute. En nous se côtoient le meilleur et le pire, n'est-ce pas? On chante Alléluia ce soir ici, on a vécu la présence de Dieu fantastique. Et puis on peut rentrer à la maison devant un téléviseur qui vous déverse des images sales. Capable de diriger une armée et incapable de diriger lui-même. Un homme de guerre et de sang, et en même temps un poète, un musicien, un homme selon le cœur de Dieu. Je pense que la clé se trouve là-dedans, c'est qu'il savait attaquer ses problèmes, à la fois ceux du dehors et ceux du dedans. J'aimerais te dire ce soir, certains géants, il suffit d'une pierre. D'autres géants, il nous faut le coup de pouce de Dieu, l'aide de Dieu, il nous envoie ses Nathan pour nous mettre le doigt sur la plaie et nous aider à guérir. J'aimerais te dire, ne te surestime pas. Je vous assure, chaque année, nous avons nos love stories. Prépare-toi à l'été. S'il le faut, mets des garde-fous autour de toi. Ne pense pas que tu sois plus fort que d'autres. Deuxièmement, le succès est aussi dangereux que l'échec, parce que c'est là que tu es vulnérable. Et pour terminer, j'aimerais dire, le péché est toxique. Il est nuisible, il détruit, et il détruit toujours. On peut dire ça ensemble, le péché détruit toujours, toujours, toujours. Alors as-tu péché, j'aimerais te dire ce soir, relève-toi. Reste pas assis. Ne dis pas, c'est trop fort ce que j'ai fait, Dieu ne peut pas me pardonner. Dieu peut te pardonner, et Dieu veut te pardonner, et Dieu veut t'aider, et Dieu veut t'en sortir. Encore faut-il que tu te relèves et que tu ailles vers lui. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et pour se relever devant Dieu et devant les hommes, bien souvent, on fait d'abord s'abaisser. Et vous savez quoi? David s'est abaissé et Dieu l'a relevé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conséquences derrière. Il y a eu des conséquences derrière. Mais n'empêche, David a grandi, a mûri. Et est devenu l'homme selon le cœur de Dieu.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.